si nous réfléchissons à n'importe quel phénomène vital, selon même sa plus étroite signification qui est biologique, nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l'œuf, la fécondation de la femme, la naissance d'un enfant relèvent d'accusations de violence. Et personne ne met en cause l'enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. Plus ou moins obscurément, tout le monde sait que ces deux mots, procès et violence, en cachent un troisième, la brutalité. La brutalité du système. Et le procès fait à la violence, c'est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire. Plus la brutalité est cassante, plus la violence qui est vie sera exigeante jusqu'à l'héroïsme. Le geste brutal est le geste qui casse l'acte libre. La brutalité prend donc les formes les plus inattendues, pas décelables immédiatement comme brutalité. L'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du mot propre ou connu par le chiffre, la priorité dans la circulation, donnée à la vitesse sur la lenteur des piétons, l'autorité de la machine sur l'homme qui la sert, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l'usage du secret empêchant une connaissance d'intérêt général, l'inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire, la marche au pas de loi, le bombardement d'Ai Phong au Vietnam, la Rolls-Royce de 40 millions, et toute la violence spontanée de la vie continuée par la violence des révolutionnaires sera tout juste suffisante pour faire échec à la brutalité organisée. Alors ce petit texte-là, c'est de Jean Genet, qui est né en 1910 à Paris et qui est mort à Paris en 1986. C'était un poète, un auteur, un écrivain. Voilà, et je vous invite vraiment à faire une petite recherche sur ce bonhomme, qui était pas mal quand même.
Alors, Juliette.
Alors,
juste,
moi j'ai la suite directe, donc, mais là ça passe plutôt, il passe de l'arnaque des sondages à la et des médias mainstream à la violence qui a permis des améliorations sociales. Il parle effectivement assez peu de Luigi au final dans ce morceau, sauf pour démontrer qu'on ne parlait pas du scandale des assurances et des 45 000 morts par an avant qu'il se fasse assassiner.
Micro ouvert.
Sur la partie des sondages, il explique que c'est une arnaque parce que ce sont les milliardaires qui possèdent les médias, qui publient les sondages, qui sont biaisés et qui au final... permettent de faire semblant qu'on écoute l'opinion du petit peuple et que cette opinion, ce serait qu'on est très content et qu'on suit tout ce que veulent les milliardaires, ce qui est faux. Et que, bah, par exemple, les éditorialistes, en cas de... ne veulent que la paix sociale, dans le sens tout le monde rentre chez soi et sans faire de compromis. Ensuite, il enchaîne sur une partie sur le chômage, notamment, qui tue, il donne des chiffres d'ailleurs, mais que les décisions qui ne mènent à ça ne sont pas considérées comme une violence, Et les dirigeants qui ne payent rien de leurs échecs, c'est-à-dire qu'ils partent avec des parachutes dorés, etc., alors que les ouvriers finissent dans la misère ou investissent toute leur vie dans une université, dans une usine pour...
c'est pas la même chose.
pour au final n'avoir plus rien. Et fait un comparatif également avec la délocalisation qui amène des morts dans des pays plus pauvres parce que tout est plus lax. Et qu'ils en ont rien à fiche. Et que la France particulièrement investit énormément d'argent dans les entreprises. Et qu'en fait, on peut, c'est un détournement d'argent public parce que les aides, au final, finissent dans les poches des actionnaires. Et que c'est pareil, ce détournement d'argent n'est pas considéré comme une violence, alors que la réponse des travailleurs, etc., ou des gens qui critiquent est considérée comme violence. Et alors là, ça m'a fait penser à un autre livre qui est d'Elsa Dorlin, qui s'appelle « Une philosophie de la violence », sur la violence légitime, et qui peut, donc il y a la violence légitime de l'État, et tout ce qui est l'autodéfense derrière, et pourquoi on est légitime à utiliser cette violence. Et il parle aussi que, historiquement, justement, cette violence, elle est oubliée. On parle beaucoup de pacifisme historique, notamment pour l'Inde ou pour le mouvement de libération des Noirs aux États-Unis, alors que ce sont été des mouvements extrêmement violents, mais qu'on en retient que les phases pacifiques. Et donc j'ai noté deux phrases qui me paraissaient pertinentes. Donc, lorsque toutes les autres formes de communication échouent, la violence est nécessaire pour survivre. Qui est là une note de Luigi Mangione qu'il a laissée sur une note de lecture d'un livre. Et aussi le slogan qui a suivi sur Internet et les réseaux sociaux qui était de « Make capitalists afraid again ». Qui reprend le fait que justement ça a un peu terrorisé tout le milieu des assurances et que c'était bien fait de retourner la peur du camp des dominés vers celui des dominants. Voilà.
Merci Juliette. Il te reste 3 secondes si tu veux. Parfait. Muriel, tu veux prendre la suite ?
Ouais, moi c'était aussi la suite du chapitre Rendre les coups, où là en fait il parle plus effectivement de ce qu'est devenu un petit peu la contestation sociale de nos jours. Il est assez critique par rapport à ça parce qu'il trouve qu'effectivement l'action directe violente entre guillemets n'a plus vraiment le vent en poupe et que maintenant tout ça a été assez marginalisé et que le débat sur la non-violence a été vite tranché par les syndicats, et que maintenant, on va préconiser plutôt le dialogue social, qui, selon lui, est plutôt une négociation sans rapport de force, donc tout ça mène en fait à rien. Il dit que par rapport à tous les émeutes qu'il y avait eu, les grèves et les mouvements de sabotage, en fait, les émeutes sont devenues des manifestations qui sont en fait très très prévisibles, où le parcours est connu, on sait où ça commence, on sait où ça se termine. Pareil pour les grèves, donc c'est devenu des mouvements où on sait, elles sont annoncées, anticipées, donc complètement prévisibles, et donc en fait on a complètement retiré le caractère effrayant, on va dire entre guillemets, pour la classe dominante et pour le capitalisme, qui est contrariante aussi, et en fait ce qui fait normalement toute la puissance de ce genre de contestation, c'est pas tellement tant la violence, c'est plutôt le côté imprévisible, c'est le côté incontrôlable. Il donne les exemples, par exemple, que les seuls en France, évidemment, de nouveau, il y a eu les gilets jaunes qui a été vraiment ce qui a surpris, on va dire, la classe dominante, la classe politique dominante. Et aussi un mouvement par rapport aux jeunes, par rapport au CPE en France. C'était les seuls, par rapport à tous les mouvements de grève et de manifestation qu'il y a eu ces dernières années en France, c'est les deux seuls qu'on retient parce qu'en fait, il y a eu un caractère vraiment imprévisible et incontrôlable de l'aveu de ces classes-là. Donc voilà, il trouve que ça a été vraiment... On enlève en fait ce côté en annonçant les grèves, en les respectant. Donc voilà, il met un petit peu... cette sorte de passage non violent. Aussi le fait qu'on délègue maintenant cette contestation à des professionnels, entre guillemets, donc à une sorte de classe de professionnels, c'est-à-dire le syndicat, les politiques, parfois les ONG pour tout ce qui est l'aspect écologie. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant de dire qu'en fait, c'est ça qui va freiner le vrai rapport de force, c'est qu'en fait, on demande à d'autres gens de contester à notre place, mais en fait, ils vont plutôt canaliser les tensions et en fait éviter tout débordement parce qu'en fait, ils veulent rester dans ce dialogue social. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'ils partagent une expérience personnelle pour raisonner à ça, que justement, avant, il était conseiller parlementaire après des années de militance. Donc lui, il était voilà, pour lui, c'était l'aboutissement de quelque chose. Il avait l'impression d'être hyper utile au Parlement, à faire des amendements de textes pour améliorer la vie des autres entre guillemets. Et en fait, il réalise surtout que sa vie a changé, qu'il a mieux gagné sa vie, qu'il était quand même dans un cadre confortable, même s'il y avait des gens, il fréquentait des gens qui n'étaient pas spécialement du même bord politique que lui, mais bon, il était quand même, tous les jours, ils se croisaient, ils se côtoyaient, ils partageaient un peu les mêmes vies. Et au moment où les Gilets jaunes ont commencé leur contestation dans les rues, il a vraiment eu cette espèce d'étiolement de cette idée révolutionnaire, de son ambition révolutionnaire en travaillant au Parlement, de se dire, je ne sers à rien, de réaliser qu'en fait, ces amendements de texte et tout ça, en fait, les gens qui sont en train de contester, pour qui, selon lui, il était en train de faire tout ça, en fait, ne lui font aucune confiance et ne font aucune confiance aux politiques. Et donc, du coup, il a mis ce pas de côté par rapport à cette vie-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement ça, ce qui représente peut-être un peu les syndicats ou les politiques. C'est de se dire, je l'avais souligné ici, cela fait d'être un professionnel du changement social, c'est que cela nous le fait craindre. Puisqu'on est dans une position confortable, on n'a pas spécialement envie que ça change. Et donc, de dire qu'il y a eu beaucoup de moments où on se dit, OK, c'est pas le moment, il faut pas trop que ça déborde, parce qu'en fait, on est en train de parler de soi, de dire, moi, je suis dans ma petite position confortable, vaut pas tout d'un coup un renversement et un bouleversement de société, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant que ça venait, qu'il le partageait de lui-même. Juste une petite phrase, parce que pour un peu sur une note que je trouvais plutôt intéressante. Donc c'est un tout petit passage. C'est « La menace de violence est un classique de la lutte sociale. Elle permet d'effrayer la classe dominante en lui rappelant un paramètre qu'elle ne pourra jamais changer, son infériorité numérique. Les peuples sont toujours plus nombreux que les classes régnantes et celles-ci ne règnent que parce que ces sujets sont divisés. » Voilà, c'est un rappel de ce potentiel insurrectionnel du peuple. Je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en fait, c'est effectivement le côté où on est plus nombreux, quelque part. Voilà, c'est tout, je m'arrête là.
T'inquiète, il est gentil. Ça va. T'as vu, il fait pas d'histoire. Hein. Okay. Là, si tu veux pas, tu dis. Hein.
Si.
Joël.
Oui. Donc, j'ai lu la suite de Rendre les coups. Où là, on parle de faire chanter la classe dominante en dégradant ses biens et son argent. Il parle aussi de grève, de vandalisme et d'émeutes. Il propose de neutraliser la classe dominante en posant deux questions. Qu'est-ce qui amoindrit notre humanité et qu'est-ce qui gonfle notre sentiment d'exister? Ensuite, il parle du meurtre. Et là, il dit que le meurtre à des fins politiques est réprouvé et immoral et qu'il n'a pas fait ses preuves, si j'ai bien lu. Il parle du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et c'est juste à ce moment-là que Michelle Obama a fait publier son best-seller qui s'intitule « Devenir ». Et là, l'auteur se demande ce qu'on peut avoir comme considération puisque c'est une millionnaire. Mais on arrive quand même à s'identifier à cette personne. Si on est une personne ordinaire, on va s'identifier à Michelle Obama qui est, d'un autre côté, une personne unique. On va la respecter, l'admirer plus, car elle est descendante d'esclaves. Et elle veut montrer que tout est possible. Suite à ça, Mona Chalet a étudié le succès de ses mémoires, parce que ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires. Elle dit qu'il est difficile de prôner l'effort et le travail acharné pour monter dans l'échelle sociale, ou monter l'échelle sociale. Et donc Barack Obama était un homme noir à la Maison Blanche. Il est resté 8 ans et son Obamacare n'a pas eu les effets escomptés. Il n'y a pas eu de changement de société. Alors, on propose une issue individuelle à cet échec collectif. Donc Barack Obama n'a pas vraiment réussi, mais Michelle Obama a des mémoires exceptionnel. Alors, l'auteur nous invite à ne pas lire des récits d'exception. Et ça, en fait, ces récits d'exception essayent de montrer qu'on peut dépasser les inégalités, mais uniquement quelques individus peuvent les dépasser. Ensuite, il parle de Macron, qui a dit que les jeunes devaient avoir envie de devenir millionnaires. Mais à côté de ça, il a sélectionné de façon plus stricte l'entrée dans les universités. Il nous encourage à nous associer à nos semblables, car le collectif est la façon la plus sûre de triompher et de construire un mouvement émancipatoire collectif par rapport à l'action isolée d'un individu. Et puis, il parle de sa grand-mère, de nouveau, qui, elle, a adoré les mémoires de Michelle Obama. Et il se dit qu'il y a quand même pas mal de monde qui adore ses mémoires. Et en fait, c'est très satisfaisant de suivre les tourments de personnages attachants ou repoussants, de juger leurs actions, de compatir à leur peine, donc de vivre par procuration. Et pour sa grand-mère, c'était sa façon de comprendre la société. Et pour elle, donc pour la grand-mère, devenir de Michelle Obama, c'était vraiment une femme qui tenait tête. Et tenir tête, c'est ne pas se laisser faire. Oui. En gros, c'est mieux de se mettre ensemble plutôt que de faire son gros truc tout seul. Voilà.
Parfait. Je note quelques éléments de ce que vous dites, parce que après, je vous ferai un petit rapport de quelques éléments de l'année. C'est à toi.
Wow. Faut que je me mette dedans, là. C'est un peu galère, j'avoue. Je sais pas si c'est une bonne idée.
Ça va.
Mais moi, je l'ai fait vraiment comme t'as dit, hein. C'est-à-dire, t'avais posé des questions, j'ai répondu aux questions, tu vois.
Tu es admirable.
Et en plus, je parle le deux tournées, maintenant. Attends. Bon, qu'avez-vous envie de restituer ? C'était ça la première question, hein. Qu'avez-vous envie de restituer de votre lecture ? Ben, moi, c'est le passage, en fait, c'est trop bien. C'est sur la violence d'un homme hyper normal, quoi. Un père comme vous et moi, voilà. Et donc, lui, il dit... Le sourire immaculé est encore plus un symbole extérieur de richesse aux États-Unis qu'en France, car les soins dentaires y sont particulièrement inaccessibles. Afficher une bouche intacte et blanche est donc un signe de réussite. Mangione fait partie d'une famille aisée du Maryland et diplômé en informatique. Il ne semblait pas être dans une situation économique difficile. Il avait tout pour lui, résume un ami du lycée. Il était super normal, rajoute une camarade d'université. Luigi Mangione est aisé, mais ordinaire. Moi, je trouvais ça drôle comme manière de... Non ? Il est aisé, mais ordinaire. Donc, il n'est pas pauvre, quoi. Non ? Je sais pas si tu trouves ça bizarre. Donc, avec un peu d'effort, il dit aussi, hein, c'est toujours lui, ça, quand on est proche de son âge, on peut s'imaginer être lui. Ça dépend de où on se situe sur la classe sociale, hein, vous voyez, c'est toujours ça. Je ne viens pas d'un milieu aussi aisé que Mangione. J'ai 10 ans de plus que lui, mais avec un peu d'imagination, j'aurais pu être lui. Plus que s'il avait été un individu ultra précaire, polytraumatisé par le système capitaliste américain ou désireux de venger un être cher. Plusieurs jours après son arrestation, d'autres éléments sont venus fragiliser cette effrayante normalité. Effrayante, car si Luigi Mangione est aussi ordinaire que cela, combien, et je trouve que c'est là, combien d'autres jeunes gens ordinaires pourraient agir de la sorte ? Vous et moi ? Donc, ça fait peur, hein ?
Ou pas ?
Oui.
Donc voilà, moi j'ai le passage, en fait, voilà, il parle de ça, de cette normalité. Et alors j'aime bien aussi ce passage-là. Il est désormais nettement plus probable, quand on souffre comme un chien, de devenir addict à l'héroïne plutôt que de nourrir des plans d'assassinat politique. Elle est bien, celle-là. Non ? Enfin, voilà. Après, oui, c'est la partie aussi sur la violence, quoi. Que normalement, oui, on parlait juste avant qu'on se mettait en collectif. Il y a eu, dans les années 60-70, les Brigades Rouges, Action Directe, vous voyez, tous ces groupes armés, violents. Et puis, dans le temps, avec le néolibéralisme qui s'est imposé, la violence aussi s'est affondue. Et on voit qu'un type tout seul, pas spécialement politisé, bute un sale type, parce que c'est un sale type, hein, sous couvert de, vous voyez, sûrement en costume cravate, propre sur lui, mais c'est un sale type, voilà. Non, mais c'est vrai, soyons clairs, parce que, voilà, enfin, c'est pas ce qu'il dit, hein, il dit pas que c'est un sale type, ça c'est moi qui dis. Non, mais vous avez entendu la différence entre... Mais en tout cas, c'est cette partie-là où la violence, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça sert à quelque chose de... C'est ça son propos à lui. Mais ça n'a pas encore sonné. Les années 80-90 qui suivent voient le triomphe du néolibéralisme, forme d'action politique bourgeoisiste, décomplexée, et l'abandon de la lutte des classes par la plupart des partis de gauche. Hein, ça, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, hein? Non, mais c'est vrai, non? Ah, ben voilà, c'est fini. Non, mais j'ai tout
essayé.
L'abandon de la lutte des classes. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je trouve qu'on clôture.
Non, j'ai mon passage et puis toi, tu clôtures. Okay. Parce qu'en fait, je t'avais laissé la fin.
Il est un petit peu après. Alors... Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous restituer de ma partie? Ben, c'est que vous aviez raison en analysant la couverture. Parce qu'en fait, dans cette partie, d'une part, ben, il rappelle qu'en fait, Luigi Mangione, ben, la police le décrit comme anticapitaliste et sensible. C'est triste à dire, mais il existe cette idée reçue que quand on est sexy, on ne peut pas être un monstre. C'est absurde, mais l'alliance entre la beauté et le mal, le séduisant et le répulsif, crée un trouble. Et donc, il est troublant, Luigi Mangione. Il y a également le fait qu'il parle de ses traits assez angéliques, raphaélites un peu, ses cheveux bouclés, etc., mais aussi sa stature et sa musculature. Alors, la musculature, l'auteur la raccroche à deux éléments. D'abord, il y a vraiment une... Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Le capital musculaire qui est prôné notamment par les néofascistes, par exemple, qui est un culte du corps. Mais lui, en tout cas Nicolas Framont, il l'oppose à une autre vision de la force physique. Et je trouvais ça intéressant à souligner. C'est... Voilà. C'est à la fois le corps dominateur des fascistes, comme je vous disais, mais aussi le corps émancipé du mouvement ouvrier. Il me semble que puisque la lutte de classe est aussi et surtout une lutte des corps, le muscle, en tout cas, peut protéger et le muscle peut renforcer. Voilà. Et par ailleurs, l'identification, c'est peut-être parce que presque la moitié des jeunes pratiquent désormais la musculation. Pour l'instant, c'est vraiment un truc extrêmement tendance. Ça, c'était pour la phrase que j'avais envie de vous restituer. Maintenant, une idée très forte que je trouvais intéressante, et elle est un petit peu plus loin dans le texte, c'est qu'il oppose deux notions. Il y a d'une part le criminel, et ce criminel, qu'est-ce que je disais du criminel ? Le criminel, ben, quelque part, il utilise la violence comme une fin, il fétichise la violence, etc., là où le hors-la-loi... Le hors-la-loi, lui, il va utiliser la violence comme un moyen. Et c'est toute la nuance entre l'un et l'autre. Je ne sais rien, je perds tous mes bics. Une phrase forte aussi, je trouvais intéressante, c'est ce qui ne veut pas dire qu'on doit se jeter à corps perdu dans la violence. Au contraire, il faut savoir en user au bon moment et de façon juste et proportionnée. Les hors-la-loi s'inscrivent dans cette éthique de la violence. Contrairement aux criminels, voilà, qui la fétichisent, etc. Et c'est ce que Luigi Mangione a fait. C'était une personne qui était visée, il n'y a pas eu de victime collatérale. Et alors, en quoi cette histoire de hors-la-loi, fait écho à mon expérience, en tout cas quelque chose qui a réveillé très jeune, en tout cas chez moi, le sentiment d'injustice sociale. Il reprend la phrase, donc il cite la phrase d'un chanteur, Charles Arthur Freund, qui dit « Vous ne verrez jamais un hors-la-loi expulser une famille de son toit ». Et en fait, je me souviens, quand j'étais gamine, j'habitais dans une cité sociale à Tubize, qui était la réplique exacte du Peter Bos, ici à Bruxelles, et j'ai vu une famille se faire expulser. Je veux dire, déjà, quand expulsé d'un logement social, je trouve que c'est d'une gravité sans nom, enfin, d'un logement en général, mais d'un logement social, c'était déjà dire qu'on mettait à la rue des personnes qui étaient déjà en situation de vulnérabilité matérielle. Et je voyais une image qui m'a marquée, qui me hante encore aujourd'hui, c'est les jouets de mes petits voisins dans la benne. Voilà. J'ai fini.
Moi, j'ai eu la fin du chapitre qui s'appelle « Devenir Luigi Mangione » par opposition à « Devenir Michelle Obama ». Et il clôture ce chapitre avec les mots suivants. « Devenir Luigi Mangione, c'est au contraire, de Michelle Obama donc, refuser de vivre heureux dans un monde de malheur et d'injustice, quel que soit son milieu social d'origine, quelles que soient ses chances de départ. Devenir Luigi Mangione, c'est se demander comment on peut faire changer un système oppressif. » Et je trouvais que c'était intéressant de ce refus d'être heureux dans un monde où tout le monde est malheureux. Ensuite, j'ai la conclusion et je la trouve intéressante et elle fait beaucoup d'écho par rapport au monde syndical, au monde politique en général et à tous les questionnements qu'on a pour le moment sur le fait qu'on va ne plus avoir de subsides. Il dit « Il semble de toute façon inconcevable qu'un régime politique légalise sa propre contestation ». Toute action radicalement transformatrice est condamnée à être illégale. Il ajoute, actuellement, la majeure partie de l'action politique et syndicale officielle respecte les limites autorisées et promues par les institutions. Et il dit que de plus en plus de gens sont dégoûtés, ne vont plus aux manifs et qu'on les traite d'égoïstes. Puisqu'ils ne s'occupent pas de politique, tous ces prolos. Et il dit « Et n'est-ce pas parfaitement égoïste d'appeler à un jeu que l'on sait perdu d'avance, mais où l'on trouve sa place, sa petite reconnaissance sociale et éventuellement ses revenus ?» Et moi, ça m'a très fort fait résonner la discussion qu'il y a eu, que j'ai eue autour de moi, beaucoup, lors de la grande manif syndicale. Il y a des manifestants, manifestantes, cagoulées, qui ont un peu cassé les vitres de l'Office des étrangers. Et il y a eu une discussion, mais dans la gauche, sur « et ils ont gâché la manif, et c'était trop méchant !» Et alors qu'ils ont blessé personne, les flics, en retour, ont gazé la Ligue des familles et des mamans avec les poussettes. Et toute la discussion, c'était pas sur la violence de la police, c'était sur une dizaine de personnes qui avaient cassé des vitres, quoi. Ils ont même pas blessé quelqu'un. Et le niveau de tolérance à ce qu'on appelle la violence de nos jours, il y a pas eu de CEO qui a été buté, hein. C'est juste casser une vitre et ça a tellement fait de bruit. Et même dans notre camp, tellement de contestations par rapport à cette violence qui, somme toute, est assez minime, que j'ai trouvé ça très frappant. Et donc, je trouve important de un peu réhabiliter la violence.
Est-ce que vous voulez que je fasse petit...
Non, j'ai oublié. Last but not least, il dit... Et je ne peux conclure ce livre sans parler du fait le plus marquant et traumatisant de notre époque, qui montre le niveau de nullité morale crasse de la classe dominante, qui est le génocide à Gaza.
Ouais. C'est pas moi. On peut s'applaudir, je trouve. Ouais. Est-ce que je peux vous livrer un petit résumé du glanage ? J'ai glané un petit peu et après on fait un petit échange, voilà. Du coup. Inverser la peur auprès de la cour des ambitieux, invisibilisés, derrière leurs remparts contre la réalité, les empêcher de dormir la nuit, rendre les coups à ceux qui rusent pour écraser la révolte des peuples, contre l'ordre bourgeois qui réduit nos droits définis par les classes dominantes. Voter peut-il bousculer cet ordre ? Ne rien lâcher, force du collectif qui considère que tout... qui considère le droit et la violence légitimes. Les sondages sont l'instrument des milliardaires qui possèdent les médias et quand ils échouent, ils partent avec des parachutes dorés tandis que les chômeurs meurent. Les manifestations sont prévisibles, contrôlables. Les émeutes, non. On canalise les tensions par le dialogue social. C'est confortable, mais ça ne renverse pas les choses. On est plus nombreux qu'eux. Faisons chanter la classe dominante. Le triomphe sera collectif. Ne respectons plus les limites autorisées, mais capitalisme afraid again. Mmh.
Trop bien.
La peur. Donc, en gros, ça commençait par ça, inverser la peur. Et puis, j'ai entendu le « mais capitalisme afraid again ». Donc, voilà. Ça, c'est pour le petit glanage. Est-ce que vous avez envie de répondre à ce que vous avez entendu, peut-être d'ajouter les expériences que certaines n'ont pas pu développer dans leurs 4 minutes de déroulé.
Le mot violence, c'est un mot très fort. Et,
Qui fait peur, là.
Oui, oui. Et faudrait peut-être... Et voilà, il faudrait peut-être délimiter, définir ce mot violence, parce que moi, je ne me vois pas me battre et recevoir des coups, non. Parce que j'ai pas beaucoup de...
Moi, je veux bien réagir à ça parce que dans ma petite partie à la fin, je n'en ai pas parlé, mais justement, il dit que c'est important de classer les types de violences. Mm-hmm. Et donc, il parle d'abord de la violence verbale, donc de dire avec des mots forts, de dire que parfois c'est quelque chose que, par exemple, la bourgeoisie est très sensible à la violence verbale parce que ça porte atteinte un peu à leur honneur et à leur réputation. Ensuite, à la violence économique, donc le fait de faire des blocages, des grèves, des débrayages, d'arrêter de travailler, donc ça fait perdre de l'argent en direction. Ensuite, à la violence envers les biens, donc ça c'est dégrader les objets, les vitrines, ce genre de choses. Donc ça défie un peu le principe de propriété privée. Donc voilà, c'est pour montrer aussi, ça met en scène la supériorité numérique. Et puis t'as la violence envers les personnes. Et donc ça, c'est de degrés variables entre la bousculade jusqu'au meurtre, en disant bah voilà, ça, il l'a dit à plusieurs fois que c'était condamnable. Évidemment, une vie humaine, ça reste sacré. Mais voilà, il délimite la violence quand même à plusieurs niveaux de qu'est-ce qu'on parle de violence, parce que souvent dans les médias, on entend voilà, comme si c'était exactement la même gravité, casser une vitre qu'un coup de policier sur un manifestant qui n'est pas armé. Voilà, de dire qu'il y a effectivement... Pour se prononcer dans la violence, il faut comprendre qu'il y a un spectre, quoi. On n'est pas spécialement... C'est pas parce qu'on prône la violence qu'on veut le meurtre de personne. C'est important de le dire. Que, voilà.
Enfin, c'est une question, après j'arrête. Hein, mais qu'est-ce qui te fait peur dans ce mot-là, juste de comment ça résonne en toi ?
Ben, j'imagine... J'ai même pensé jusqu'à la guerre avec les soldats, mais oui, il y a l'aspect meurtre, l'aspect dégradation. Qu'est-ce que ça va apporter, quoi ?
C'est que je trouve aussi que on est tellement dans ce système que dans le système capitaliste qu'en fait les médias qui sont ceux qu'on voit tout le temps veulent nous montrer une partie de qu'est-ce qu'ils veulent qu'on pense de la violence. Et donc, effectivement, il nous montre les trucs très... C'est-à-dire, on vit avec des quantités de séries, de films, où il n'arrête pas d'avoir de la guerre, des bombardements et autres. Et bien sûr qu'on parle jamais de la violence qu'on vit tous les jours en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que maman, en tant que personne qu'on est et autres. Et donc, je pense que renverser ce discours de la violence, il y a des gens qui pensent que c'est très violent de faire de la désobéissance civile. Après, tu dois voir qu'est-ce que tu comprends par désobéissance civile. C'est-à-dire, je pense qu'on nous invite à imaginer une violence qui est égale à meurtre tout le temps. Et que, en fait, la violence proportionnée de ce qu'on vit maintenant est 10 fois supérieure à cette violence physique de meurtre. Et voilà. Et que la violence collective, c'est quand même beaucoup plus... C'est-à-dire la violence collective, ça veut dire la résistance aussi collective, est quand même aussi beaucoup plus facile. Ça ne veut pas te dire, toi, tu vas aller bloquer toute seule un zoning ou un truc. C'est OK, on va mettre, le feu à un barrage et entre 15 personnes, c'est autre chose.
Ce qui est dingue, c'est que d'abord, c'est la représentation de la violence dans les œuvres culturelles. Et là, clairement, elle a changé complètement de visage à partir du moment où les Américains nous ont donné l'argent pour construire l'Europe. Hein. Dans le plan Marshall, la première des conditions, c'était de lever les quotas sur les productions hollywoodiennes dans les accords Bloom-Burns. Et donc, on s'est mangé la vision américaine des choses. Ça, c'est un premier élément. Et puis alors, par rapport au côté imprévisible dont on a entendu tout à l'heure des émeutes face aux manifestations organisées. J'ai entendu récemment, mais je ne sais pas si c'est Nicolas Framont ou si c'est quelqu'un d'autre, parler de l'exemple des Gilets jaunes. Et en fait, le succès de leurs actions, tant qu'elles étaient prévisibles, imprévisibles au rond-point, où les forces de l'ordre ne savaient plus donner de la tête. À partir du moment où ils ont investi des espaces dits symboliques tels qu'un Parlement, ils ont poussé la porte et puis il n'y avait personne derrière. Parce que ce symbole, il est vide, physiquement vide. Et là, en plus, ils ont été totalement la proie des forces de l'ordre qui les ont éborgnés, qui les ont abîmés à vie. Et ça questionne vraiment de quel côté est vraiment la violence, quoi. Et la vision éthique que nous propose Nicolas Framont, qui ouvre une prise de conscience, je trouve qu'elle est très précieuse, quoi.
Il s'agit d'imprévisibilité, mais aussi, enfin moi, c'est Nicolas Framont que j'ai entendu dire ça, d'action éclatée. Voilà.
C'était lui alors que j'avais entendu.
Enfin, en tout cas, ça fait écho à son discours que j'ai retenu, ouais.
Et on n'a pas oublié que le mouvement des Gilets jaunes, ben, il était à... T'avais demandé la parole avant. Il était à ça de réussir, parce que un des épisodes des Gilets jaunes les plus répressifs, c'est lorsque les Gilets jaunes ont pris d'assaut l'Arc de Triomphe. Ils avaient prévu un hélicoptère pour exfiltrer Macron. Donc ça veut dire qu'ils étaient à un cheveu. Ça veut donc dire qu'on peut y arriver. Mais c'est vrai que le prix qui a été payé par les Gilets jaunes, le nombre d'éborgnés, le nombre de personnes qui ont perdu une main, etc., et c'est d'une violence inouïe. Et peut-on faire la révolution sans blesser? Et ça, faut peut-être pas se leurrer non plus. Et un deuxième point que je voulais... j'ai perdu le fil. Je vais laisser Salma, puis je vais... Ah oui, c'est cette disqualification de la violence. Le spectre a tellement glissé. Il y a 30 ans, il y avait il y avait un piquet de grève devant une usine. Il y avait, il y avait un feu avec des palettes, etc. C'est normal, on met le feu, on bloque. À la dernière grosse manif, d'ailleurs la manif du 14 octobre, à Isère, il y a des jeunes qui ont mis le feu à des palettes. Ils ont été arrêtés directement et ils sont poursuivis pour incendie volontaire. Donc, ce qui était accepté, était normal il y a plusieurs années, devient même aujourd'hui intolérable. Il y a une dame qui fait partie d'un groupe féministe qui a été poursuivie pour jet de projectiles à l'encontre de policiers, alors qu'elle avait jeté des confettis. Et donc, on voit ce spectre glisser, et il faut utiliser ces arguments, tu vois, cette réalité, et c'est réel, hein. Et si elle l'avait pas dit, ben je l'aurais pas cru. Mais et là, on voit bien jusqu'où va l'églissement. À une époque, on pouvait bousculer, les grévistes bousculaient le PDG, déchiraient sa chemise.
Ils le connaissaient.
Ils le prenaient, ils le séquestraient. C'était aujourd'hui, même j'étais des confettis. Plus rien n'est toléré, plus rien n'est permis.
Ouais. D'accord.
Mais les confettis.
Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a des citoyens dans le Minnesota qui ont balancé, qui ont balancé des godemichets sur les victimes. C'est super drôle. Ils ont planté des ventouses de godemichets sur leur voiture.
Moi, je voulais vous partager deux petits points qui ne sont pas dans le livre, du coup. Aux États-Unis, il y a un gros problème avec un médicament qui s'appelle le fentanyl, qui est super addictif, qui est une drogue et qui a été prescrit, mais de manière à la demande des firmes pharmaceutiques, de manière. Et donc, c'est vraiment un problème de santé publique majeur parce qu'il y a un nombre de morts incroyable. Et l'administration Trump a déclaré que le fentanyl était une arme de destruction massive et a accusé le gouvernement vénézuélien et donc Maduro d'être à la base du fentanyl, alors qu'il n'a juste rien à voir. C'est un dérivé de l'héroïne. Ça vient même pas d'Amérique latine. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais c'était... Oui, à la base, c'était inventé par un Belge. Et donc, on voit que leur traficouillage au niveau médical a des implications, puisqu'ils l'utilisent au niveau international pour aller kidnapper un président d'un pays étranger. Et
kidnapper par de Wever, vu que c'est belge.
Et il se trouve que à l'heure actuelle, aujourd'hui, Luigi et Maduro sont dans la même prison et ils ont même fait connaissance.
Quelqu'un?
Oui, moi je voudrais, pour revenir sur la violence et tout ça, utiliser des termes différents. Il y a la violence d'État et il y a ce qu'on fait nous qui est en fait de l'autodéfense.
La résistance.
Oui, de la résistance, mais du coup, voilà, le fait on se défend contre quelque chose et on vient pas de nulle part. Attaquer des gens dans la rue ou quelque chose comme ça. Et donc le principe d'autodéfense est quand même des personnes minorisées, etc., est quand même central dans la philosophie de la violence, parce qu'à ce moment-là, dans l'autodéfense, la violence est légitime parce qu'il faut se protéger d'autres violences. Et que le monde actuel, même si les violences économiques, les violences des flics, etc., on se les mange constamment dans la gueule. Et au bout d'un moment, on a le droit de s'auto-défendre.
Le devoir.
Le devoir aussi. Et quand on ne peut pas faire soi-même, on peut aussi juste protéger ceux qui le font. On ne demande à personne d'être en première ligne ou de devenir un black bloc. Mais par exemple, il y a le principe en manifestation. Si tu n'es pas le black bloc, tu protèges le black bloc. C'est-à-dire tu les laisses disparaître dans la foule, tu ne les rejettes pas. Tu te dis, OK, ils ont leur valeur. Parce que l'émeute et la destruction et la manifestation fera aussi parler les médias, etc. Et qu'on a besoin de ces outils-là pour avancer, quoi.
Ça me rappelle assez bien la phrase de Elder Camara, que je vais lire parce que je ne cite pas de mémoire. La première mère de toutes les autres est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations.
Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose qui est aussi pas vraiment dans le bouquin, mais qui, moi, a fait que j'ai voulu lire ce bouquin et qui m'a intéressée chez Luigi. C'était que, dans ce qui a été dit dans la presse, c'est que l'assurance santé a refusé des soins de santé à sa mère et qu'il a entendu sa mère souffrir. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence de la place de la mère dans les milieux populaires et dans les pays du Sud, qui ont tendance à sanctifier la mère. On se souvient de Zinedine Zidane qui a fait perdre son équipe parce qu'il a mis une tête à un autre joueur. Tout le monde trouvait que c'était scandaleux. Et puis après on a dit, même aux supporters les plus énervés, on leur a dit oui, mais il avait insulté sa mère. Ah, ça va alors.
Même les Italiens, c'était
normal. Ah oui, surtout les Italiens. Il a insulté sa mère, c'est bon quoi. Il a mérité la tête. Et il y a comme ça, et je crois que le succès que Luigi Mangione a eu dans les milieux populaires et dans les pays du Sud, c'est ça aussi. Tuer quelqu'un, c'est pas bien. Tuer quelqu'un parce qu'il a fait du mal à ta mère, ah, ça se discute. C'est directement quelque chose de différent. Et cette place de la mère, le Nicolas Framont n'en parle pas vraiment, sauf qu'il parle de sa grand-mère en permanence. Donc, en filigrane, on sent qu'il le comprend aussi. Et je pense que c'est un élément qui est important pour comprendre l'acte. Et le fait que cet acte est compris dans les milieux populaires où c'est important, en fait, la maman. Voilà.
Aussi, on a voulu renverser en disant, mais nous autres, on est fiers d'enfants. C'est pour ça qu'on a fait un post qui dit, on est la maman de Luigi. C'est, ben, on est fiers de que ce soit aussi nos enfants qui se battent pour ça.
Deux trucs. Réagir à ce qui a été dit plus tôt, on a de moins en moins de nos actions face à l'ordre répressif, la police et tout ça, sont acceptables. Et de l'autre côté, dans mon passage, il le disait, j'ai pas eu l'occasion de le dire, qu'en fait, tout ce qui était décrié, ce pourquoi Luigi a assassiné cet homme et tout ça, c'est légal. Et donc, du coup, je voulais répondre à une des questions qui est quel lien avec quelque chose de quelque chose qu'on a vécu ou qui résonne dans nos vies. C'est les dernières mauvaises nouvelles pour la famille d'Adama Traoré, et de dire mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de du droit, quoi, et est-ce que vraiment il y a un espoir là-dessus? Moi, à chaque fois, je ne cesse d'être déçue. Et donc, voilà, ça, c'était une réflexion. Et alors, l'autre, c'était, et ça résonne aussi, c'est... Moi, ce qui m'a manqué dans ce livre et que je croyais trouver, c'est un compte-rendu un peu de qu'est-ce que ce livre a suscité dans les populations du Sud? Comment ça a été médiatisé, en fait? Parce que là aussi, dans mon passage, il a parlé de la complicité des médias et de la responsabilité des médias. Voilà, bref. Et donc, du coup, comment Luigi, il a pu être auréolé? Quels ont été les comment ça a circulé, quoi, dans la population? C'est sûrement pas les médias traditionnels qui ont... qui ont érigé Luigi en saint, quoi. Et donc, voilà. Mais du coup, je ne l'ai pas trouvé dans le livre, et je pensais que Framont allait au moins faire un chapitre là-dessus sur... Ouais. Et aussi, moi, je pensais que ce type, quand même, il avait préparé son action. J'ai pas aussi très bien compris. J'ai l'impression qu'il a écrit des manifestes et tout ça, et qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à agir, mais dans un cadre établi qui pouvait être retrouvé et compris par les gens pour comprendre son acte. Et donc là, je suis aussi pas trop sûre d'avoir compris. Je sais pas si vous avez des éléments de réponse entre...
S'il était structuré dans son action, ou si au contraire c'était imprévisible et c'est une émeute...
Parce qu'il a été structuré dans son action, et que ça, c'est l'aboutissement d'un processus, que ça, c'est aussi encore plus légitime, quoi. Enfin, et encore plus compréhensible. Enfin, voilà, mais je m'arrête là.
J'ai peut-être deux éléments de réponse. Par rapport à Luigi, il faut savoir qu'il plaide non coupable, pour éviter la peine de mort. Et donc, on ne sait pas, et il ne va pas expliquer qu'il a structuré son action et que c'était super prémédité, puisqu'il plaide non coupable. Il dit « c'était même pas moi ». Bon, ah oui, mais c'est ça sa défense. Et s'il y a un doute, il évitera la peine de mort. Donc je comprends tout à fait, d'un point de vue individuel, et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les éléments... D'ailleurs, même Nicolas Framont prend des pincettes et dit, je rappelle qu'il plaide non coupable, parce qu'il ne veut pas l'enfoncer en écrivant un livre sur lui.
En écrivant ce livre, ne serait-ce que l'acte d'écrire ce livre, quand même, ça le fragilise, non?
Ça fragilise Luigi.
Si ce livre est connu aux États-Unis. Et l'autre élément que je vais te donner par rapport au fait que tu dis que tu peux être déçu par le droit. C'est un peu mon job, donc...
Je sais, finement. Mais...
Moi, j'ai donné des cours de droit. Je dis toujours que le droit, c'est pas la justice. Le droit, c'est une langue. C'est le langage qu'utilise le dominant pour parler au dominé. Et à partir du moment où tu te dis c'est juste un langage du dominant pour parler au dominé, tu peux pas être déçu. C'est leur langue. C'est la langue de la bourgeoisie. Parce que pour le moment, c'est la bourgeoisie qui domine. Ça a été la langue de l'aristocratie quand c'était l'aristocratie qui dominait. C'est juste une langue. Il faut savoir la parler pour pouvoir leur répondre. Mais ce que le droit va dire, donc les phrases qu'ils vont dire, ça va dépendre du rapport de force. Si le rapport de force est suffisant pour qu'on dise, eh ben, ce flic, il faut le condamner, le flic sera condamné. Le flic qui a tué...
George Floyd. C'est dingue parce qu'il y a tellement de victimes de violences policières qu'on cherche.
Le flic qui a tué George Floyd, il y a eu tellement d'émeutes qu'il s'est pris 30 ans de prison parce que le droit n'avait plus d'autre choix. Il y avait une manifestation immense devant le palais de justice. Si le flic qui a tué George Floyd s'était pris un acquittement, il y avait une émeute et le palais de justice cramait. Et donc les juges s'en rendaient compte et donc ils ont dit ça c'est tout à fait inadmissible ce que vous avez fait, alors que pour un autre flic qui aurait fait exactement la même chose sans la manif devant, il aurait été acquitté. Et pour Adama, on n'avait pas ce rapport de force là et donc le droit a dit ce que le dominant avait envie de dire. Et ça répond à la question de la violence. S'ils n'étaient pas là pour menacer de cramer le palais de justice, le flic qui a tué George Floyd, il ne se serait jamais pris de la prison.
J'ai en conclusion, il faut se mobiliser, que dans ce genre de choses, tu vois, sans spécialement rentrer dans de la violence, en fait, juste le fait d'être présent et en fait de... Bah ouais, de venir contester. Donc en fait, tu défies entre guillemets l'ordre établi parce que fondamentalement, c'est quelqu'un qui a défié la loi, nanana, soi-disant. Bah, si toi-même, tu dis, mais en fait, je soutiens cette personne-là qui est accusée, selon moi, à tort, bah voilà, tu fais quelque chose qui, normalement, t'es pas censé faire. Et bah, en fait, tu portes ta voix. Et en fait, de nouveau, c'est l'importance du nombre qui... Une dizaine de personnes, ça vaut pas... voilà, une menace. En tout cas, c'est vrai que dans les exemples des États-Unis, on voit ça, c'est qu'en fait, il y a avec George Floyd, il y a eu quand même, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans, pour le moment en tout cas aux États-Unis, une réaction par rapport à Trump qui est un peu lente certes, mais on voit que il y a clairement des braises et que ça prend du temps, mais parce que c'est bien normal quand il y a aussi une répression derrière qui est aussi armée et meurtrière, que ça refroidit des gens, mais en même temps c'est le fait de pas se taire quoi et de continuer à dire que non, à montrer, donc ça. Et une petite partie de la violence sert à ça aussi. Ça sert à choquer, ça sert à faire venir les médias. Et on en parle. Parce qu'effectivement, parfois, juste des manifestations gentilles avec des petites pancartes, c'est pas ça qui fait venir généralement les journalistes. Hein, donc, voilà.
Et puis, il y a souvent, sur la question des violences policières, il y a souvent un intérêt ou une connaissance de ce qui se passe à l'étranger, George Floyd ou Adama. Mais en Belgique, on a plein de personnes qui sont mortes entre les mains de la police et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et souvent, lorsqu'on se retrouve, on va dans les manifs ou on organise des events devant le palais de justice. On n'est pas tellement... En Belgique, on peut tuer une gamine de 2 ans. Le policier s'est pris 10 mois avec sursis et il n'a rien perdu. Dernièrement, il y a eu Fabien qui a été écrasé par un policier. On a entendu quand même que, oui, cet enfant aurait pu s'arrêter, et ainsi de suite. Donc, s'intéresser de ce qui se passe à l'étranger et ne pas se positionner ou s'intéresser à ce qui se passe chez nous, parce que, de nouveau, ceux qui meurent souvent entre les mains de la police sont souvent des personnes racisées, donc fatalement sont quelque part criminels, en tout cas sont tuables. Et donc, l'intérêt sur la question des violences policières, il doit revenir central, parce qu'en fait, énormément de choses se jouent là. Et même là, on n'y arrive pas. À Dama, okay, il y a eu un non-lieu, mais en Belgique, pour Adil, il y a eu un non-lieu. Voilà.
Mais c'est vrai que ce que vient de dire Naïma sur ce reflet qu'on a outre-Atlantique. Mais par exemple, il y a 3 semaines, Zohran Mamdani, le maire de New York, a rappelé que ICE ne pouvait pas rentrer dans le domicile des gens. Mm-hmm. que c'était une sphère privée. Non, mais c'est vrai, ils peuvent agir dans l'espace public. Eh bien, en Belgique, en première lecture, la question des visites domiciliaires pour aller choper des personnes qui ont juste fait le choix d'un exil, eh bien, c'est passé en première lecture. Et là, on attend que ça arrive au Parlement. Oui, c'est passé en première lecture, les visites domiciliaires.
C'est tombé ?
Non. Non.
J'avais lu récemment que pour finir, ça n'allait pas se faire.
Non, non, l'Arizona le remet. C'était même dans sa note, dès le départ. Et c'est passé. Et là, on attend que ça arrive au Parlement. Je pense les structures associatives pour attaquer. Tant que ce n'est pas au Parlement, on ne sait pas quoi attaquer. Mais les visites. Donc, en fait, la Belgique, même si c'est plus invisible, en termes d'organisation d'État. Violent, elle va un pas plus loin que l'administration Trump.
Et le pays dans lequel nous sommes, donc le pays, la Belgique, le surréalisme fait que mais beaucoup de gens sont soit dans le déni, dans l'ignorance, et Nicolas Framont dénonce beaucoup le syndicat. La question de cette loi sur les visites domiciliaires, que cette gauche qui prétendument va lutter contre cette mesure, d'attendre que ça passe pour faire des actions, d'attendre de voir ce que ça va venir, de continuer. C'est toujours un temps de retard, en fait. Ne veut pas mettre en place des stratégies de lutte à l'encontre du système, parce qu'eux-mêmes sont bénéficiaires de ce système. Et donc, on reste dépendant de cette gauche, qui est traître, qui fait partie du système, clairement, et qui pourtant est censée nous défendre. Et donc, il y a un glissement là où l'inertie de la gauche fait que cette extrême droite, parce qu'on est dans un pays qui est gouverné par l'extrême droite, clairement, prend de plus en plus de place, mais tout ça, c'est silencieux. C'est vraiment une violence bourgeoise. C'est pas des vrais coups, c'est pas des vraies tartes, mais, parce que ça, c'est les pauvres qui usent cette violence, mais qui est tout une violence symbolique incroyable. Et lorsque... y a un glissement, je trouve, depuis plus de 2 ans, on est confronté avec ce génocide en 4K, en direct, qui ne s'arrête pas et ça continue. C'est de plus en plus ignoble, on entend toujours plein de trucs, etc. Tout doucement, ça a un effet anesthésiant sur l'humanité des gens. Et pour preuve, les gens ne se mobilisent pas. Alors que toutes les mesures de l'Arizona c'est une catastrophe les unes après les autres. La réforme sur le chômage. Il y a la particularité avec le statut des aidants proches. Même sur ça, on n'arrive pas à faire consensus. Une maman qui s'occupe de son enfant handicapé va perdre ses revenus. Et donc, plus personne ne sait mieux, plus personne ne se... Bon. Donc, il y a un glissement d'humanité.
Mais je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie un peu de choc. C'est-à-dire la stratégie de nous faire voir plus ce qui se passe en international que ce qu'on voit ici. Même s'indigner plus en leur disant, mais même indignez-vous de ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout ne regardez pas à l'intérieur ou si vous êtes d'accord, ne dénoncez pas trop parce que on est quand même des privilégiés, c'est-à-dire aussi c'est une stratégie de parler sur non, mais on est quand même privilégiés parce que de l'autre côté on est beaucoup moins privilégiés et autres. Et donc ça te met dans un truc qui est très fort dans de l'immobilisme, parce qu'on a l'impression de cette inertie quand en fait l'espoir c'est d'être en action. C'est-à-dire si c'est que tu mets en action, c'est ce qui va te donner l'espoir de changer les choses et que tu vas pouvoir vivre dans d'autres choses.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
tu n'arrêtes pas de passer le micro devant moi.
C'est mon plaisir dans la vie. vous êtes maman à front de mer, mais voilà, il y a un vrai scandale aujourd'hui et ça passe crème. Ouais. Le lait des bébés est contaminé. Oui. Mais il y a 20 ans, je me souviens, mais pendant un mois, tous les JT auraient ouvert là-dessus. Il y aurait une indignation populaire. Aujourd'hui, les parents ne savent plus quel lait donner à leur bébé. Et ils ont déjà changé 3 fois de lait. Mais tiens, on apprend que le Galia est aussi contaminé. Et ça passe crème, quoi. C'est fou, quoi. Enfin bon, ça nous éloigne peut-être du...
Mais non, on est dans la santé, dans le capitalisme, dans le fascisme.
Est-ce qu'il y a un CEO de lait de bébé contaminé qu'on peut aller buter?
Si on connaissait leur tronche.
Partante, parce que c'est ça qu'on devrait faire à la place d'Arpentage.
Ils cachent leur tête aujourd'hui, tu sais plus à qui t'as affaire, c'est dématérialisé. Moi, je voulais juste revenir sur une suite, parce que là, on va clôturer tout doucement. Là, on parlait quand même de la santé comme bien commun. Et en fait, il y a un très, très chouette bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Folie et résistance » de Claire Touzard. Et c'est juste incroyable son propos. À nouveau, je ne lis pas le livre parce que j'ai l'intention de l'arpenter avec un groupe. Où, en fait, on parle burn-out, etc., alors qu'en fait, c'est la société qui rend les gens malades. C'est le capitalisme qui rend les gens malades. Claire Touzard le traduit apparemment très, très bien dans son ouvrage. Et je voulais savoir si à l'occasion, je propose l'arpentage de ce livre, si je pouvais vous adresser une invitation.
Oui.
Ouais.
Super.
Folie et résistance de Claire Touzard. Ah ben alors, on se retrouvera pour un prochain arpentage.
Ça va, vous êtes contente? Tu dis? Et moi? La première fois que je faisais ça.
Alors, et toi, Joël, pour une première expérience?
Très chouette.
Alors, pour la violence?
C'est aussi une première expérience.
C'est vraiment première de classe qui me laisse.
Mais non.
Arrive à Léonore, mais ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres ouvrages.